Okej, då börjar vi.
L'interview du jour.
Sur RDIWA 100.7, 107.5, la radio du DIWA, depuis le Luzran Metal Fest avec Baku. Salut.
Salut à vous.
Salut, salut.
Salut.
Présentez-vous.
David le batteur.
Dan, chanteur, guitare.
Johan à la basse.
Et Mathieu, guitare.
T'entends tout le monde bien ?
J'entends tout le monde bien.
On est accompagné
bon.
Des balances de.
Shinken qui envoie la guerre là.
Très bien. Ça perturbe quand même. Hein. J'ai envie d'écouter la musique du coup.
Pareil. C'est Shinken, c'est les collègues de Shinken qui balancent.
Baku, vous êtes de Valence. Donc vous êtes les Dromois de l'étape. Cocorico.
Exactement, ouais. Valence et alentour.
Est-ce que... On dit ça, mais Valence et ses petits villages alentour.
Ah, les petits villages.
En fait, je suis le seul qui habite à Valence.
C'est ça.
Ah bah, sortez. Alors, vous êtes dans quel petit village ?
Tu veux les vrais villages ?
Mais oui.
Tu veux les vrais villages ?
Non, on veut de la musique de campagne.
Upi représente.
Upi.
Ouais, moi, je suis sur Montméran. Ouais.
Et moi, Saint-Marcel-les-Sauzets.
Voilà, bon, c'est bien. Au milieu des champs, voilà.
La FNSEA.
La FNSEA.
J'ai l'impression d'être au Tour de France, là. Ouais. Tu sais, quand tu parles des petites communes et que tu parles...
On n'a pas une anecdote sur chaque commune. comment vous êtes monté ? Ça dure depuis combien de temps ? Racontez-nous un peu l'histoire de Baku.
Alors, on a commencé sur le deuxième confinement. On s'est enfermé dans le Mistral Palace à Valence, qui nous a gracieusement ouvert ses portes. Et on a commencé à créer là-bas. Et c'était il y a 4 ans à peu près. Voilà. Depuis, on a enregistré un EP. Et là, on vient de sortir un album en avril, je crois. Fin mars.
Alors normalement pendant le confinement tout le monde devait être chacun chez soi. Comment vous avez fait pour vous rencontrer vous ?
On est sortis de chez nous.
Non, il y a eu un moment en fait où c'était autorisé de pouvoir occuper les salles de spectacle pour justement faire des résidences.
Ah oui, c'est
et,
vrai, c'est vrai.
On a sauté sur l'occasion pour faire ça quoi.
Voilà, donc vous étiez même pas un truc constitué mais allez on fait une résidence.
Ouais. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé, on avait des attestations qui nous permettaient de créer.
De résider.
Vous jouiez avant dans autre chose ? Enfin, je veux dire, voilà, on cherche l'origine du groupe. C'est quoi votre...
Alors ouais, on a joué dans différents projets chacun. On va pas faire les CV, mais en tout cas, la dynamique du groupe, là, qui nous est jamais arrivée par le passé, c'était d'avoir un projet qui était dans le post-metal. Et c'était clair dès le début. En fait, ça s'est passé sur une rencontre à Gigor, je crois.
Ouais.
Déjà
ouais.
Une première rencontre avec Yo et Matt, qui étaient à Gigor au Festival de la Scie. Et puis moi je vois les deux gars au bar pour ma part, hein. Après chacun aura son histoire et puis ils me disent tu connais un batteur qui blaste ? Je dis bah moi les gars, facile, tu vois, réponse facile.
C'est moi
ouais.
Mais la question n'était pas du tout, tu connais intéressé, un batteur qui blaste, t'as un batteur quoi, tu vois.
Et puis on se rencontre après dans un bar à Valence, Dan était là, il y avait Thomas aussi qui était, parce qu'on avait trois guitaristes au projet au début. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme type de métal ou quel type de son, et on s'est tous mis d'accord qu'on voulait monter un projet post-métal. D'où le nom de Baku, le post-metal.
Bah alors expliquez-nous le nom de Baku.
Ah, je croyais que t'allais dire expliquez-nous ce que c'est que le post-metal.
Après.
Non.
Après, si tu veux.
Le nom de Baku. Alors, Baku, d'où ça vient, c'est d'origine japonaise. Sans pour autant, on n'est pas des fans, tu vois, de manga, etc. On se sert plutôt de ce nom-là par rapport à l'aspect de la bête qu'il représente. C'est un yokai. C'est une sorte de divinité japonaise bienveillante qui dort sous les oreillers des gens.
Plus ou moins bienveillante, quoi.
Voilà. Mais normalement, c'est plutôt un yokai, c'est plutôt bienveillant, tu vois. Et qui se nourrit des rêves et des cauchemars des gens. Souvent, quand t'as des gamins au Japon qui dorment pas très bien, on met un portrait du Baku au-dessus du lit. Et nous, ce qui nous a intéressé dans ce nom-là, c'est ce côté un peu fantasmagorique, tu vois, de l'animal. On sait pas trop ce qui est vrai, on sait pas trop ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent. Et puis ce côté massif, en fait, c'est un mix entre une sorte d'éléphant avec des défenses, d'un tigre, une queue de serpent, tu vois, quelque chose un peu imaginaire et massif, quoi.
Vous savez qu'il y a un autre Baku en France ?
Ouais, plutôt DJ.
Une meuf qui fait du dub.
Ouais, exactement.
Elle nous a contactés.
Elle vous a contacté ?
Ouais, ouais.
Bah, parlez-nous de ça, du coup. Non, mais comment on fait quand on est deux à avoir le même nom ?
Elle nous a dit qu'on avait exagéré quand même, on aurait pu se renseigner.
Elle nous a dit que c'est une bonne idée de s'appeler pareil. On lui a dit, bah, en fait, c'est pas le même style. des DJ, nous on joue en live, c'est pas les mêmes publics. Et puis elle nous a avoué qu'elle aimait bien.
Elle est pas DJ, elle est productrice. Excuse-moi, elle fait vraiment de la musique. Voilà. Ouais.
Et elle nous a avoué qu'elle aimait bien le projet. Puis nous on lui a dit bah, pourquoi pas un jour essayer de faire un feat. D'autant
ensemble,
qu'elle avait
ouais,
sorti
terrible.
Un EP sur le thème de la nuit.
C'est grave. Et vous pourriez carrément faire un feat, puisque c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que Baku fait un dub, mais très sombre, qui peut être assez dur, quoi, justement. Un fusion métal, pas de post-métal par ailleurs. C'est quoi le post-métal?
Qui répond là, ce qu'on peut parler là?
Alors le post-metal c'est défini par des structures très lentes et très rallongées, très étirées, des montées, ça vient du post-rock en fait, pour moi c'est Neurosis qui a inventé ça. Et,
il y avait le rock progressif de
ouais,
Pink Floyd.
Oui.
On va dire que
c'est son pendant métal, ouais, voilà. Ouais, on va dire ça pour résumer, ouais. Très bien.
Ah, y a un côté un peu psychédélique, il y a un côté où tu as des longs formats, tu vois, où tu parles plus en mesure mais en mouvements musicaux. Et puis par contre tu as ce côté très massif, très lent, très lourd. Et ce qu'on garde du métal vraiment, parce qu'il y a beaucoup de mélodies, c'est la voix qui est criée.
Il y a un côté rencontre entre le sludge, le doom et le hardcore.
Du coup on parle de Neurosis, on parle aussi de Cult of Luna. En France, Year of No Light, tu vois, pour citer des références, Envy, chez les Japonais, voilà, dans ce style de scène-là, quoi.
Comment tu fais pour crier comme ça et avoir cette voix tranquille,
fluette,
fluette même, un peu sans personnalité.
Alors, merci. Je vais puiser au fond de moi et de mon patrimoine familial, on va dire. Et ça vient du bide. Et après, c'est les fausses cordes vocales qui saturent. Et voilà, c'est une expulsion d'air, tout simplement. Et c'est purement de l'émotion, en fait. C'est la pure émotion.
Et ça te fait pas mal?
Du tout. Pas du tout. Je peux tenir plusieurs jours comme ça, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a un travail, on a connu des groupes où le mec il chante, mais 15 minutes après, bah, c'est fini. Pendant deux jours.
Non mais là c'est vraiment une technique d'expulsion d'air très violente qui fait saturer les fausses cordes vocales au fond de la gorge et qui donne ce son là. Après c'est ouvrir sa bouche pour avoir plus ou moins d'amplitude. Voilà,
c'est ça, technique en fait.
Oui c'est technique, mais moi ça me vient assez naturellement, j'ai envie de dire. Quand je suis devant un micro je fais ça, quoi.
T'es en colère?
Beaucoup.
Alors qu'est-ce qui vous met en colère, Baku? C'est quoi vos thèmes?
Il n'y a pas un thème de forcément colère premier dans Baku.
Non, alors les sujets abordés dans les textes ne sont pas forcément du ressort de la colère, mais plus de la recherche de soi-même, l'introspection, comment grandir et être en accord avec soi-même dans le monde dans lequel on évolue et arriver à concilier vraiment... Ce dont on rêvait quand on était jeune et ce qu'on devient quand on est beaucoup plus âgé, voire méchamment adulte, 50 ans.
Tu vois, l'album s'appelle Soma. Et en fait, on a travaillé tout le concept de la somatique et de la perception. La somatique, c'est quand tu te vois à la première personne et comment toi aussi tu te vois à la troisième personne. Et du coup, on a travaillé tout ça, la perception des choses. Et du coup, forcément, quand tu fais le bilan ou tu perçois des choses, tu peux aussi regretter des choses qui génèrent de la colère, etc. Tu vois.
Voilà. Lequel d'entre vous a pris de la ayahuasca en fait?
Ça se voit à la gueule, hein. T'as
je
même
m'en
pas posé
plus,
la question.
Hein.
Ouais, décrivez-vous physiquement les uns les autres là. Tiens, toi raconte-lui à quoi il ressemble.
Et, David, à quoi il ressemble? Écoute, Antonio Banderas avec les cheveux attachés, j'ai envie de dire.
Pas mal.
On valide.
À quoi il ressemble?
Il ressemble à un vieux briscard qui joue du blues. Dans un bar en buvant du whisky.
Il y a un côté Jason Tatan.
Ouais, Jason Tatan.
Si on reste dans les acteurs, c'est
Jason
vrai aussi.
Tatan.
Et vous deux, là?
Toi, tu ressembles à un punk californien.
Ah ouais.
C'est la casquette, ça. C'est la casquette.
J'ai un ami californien qui m'a dit que j'étais le plus californien des Dromois.
C'est vrai. Il faudrait que tu aies un skate.
Il est dans la voiture. Non, c'est pas vrai.
Bon, puis le dernier, vous dites rien, il ressemble à rien.
Ouais, parce que c'est le plus costaud, du coup, personne n'ose broncher.
Les bassistes, toujours, voilà.
La basse.
Il ressemble à un barman.
Alors, comme t'es bassiste, j'imagine que c'est toi qui gère tous les réseaux. C'est toi qui book.
C'est
toi qui conduis.
Non.
Pas le permis.
Eh ben non. Tu vois, moi, j'ai pas le permis, donc je suis un vrai bassiste, tu vois.
Le boulet, quoi.
Le boulet, ouais, tu vois.
Mais comment vous...
Juste, il gère les réseaux.
Bah, évidemment.
Comment vous bossez, les gars?
C'est un standard dans tous les groupes.
Qui écrit, qui décide, qui envoie, qui motive les autres?
C'est très collectif tout ça. Alors, David nous a apporté quand même sur un plateau le thème du Bakou, et ce qui a permis d'ouvrir l'imaginaire comme il faut. Et après, on s'est un petit peu tous mis autour d'une table. Moi, j'ai posé une question à mes camarades, genre, quel est le rêve récurrent dont vous vous souvenez de votre enfance? Et on est parti de là et on a écrit les textes de manière assez collégiale. Après, moi, je me suis occupé de la fin, mais sinon, on a fait ça de manière collégiale.
Cette question des rêves récurrents, du coup, vous l'avez un peu étudiée. Est-ce que vous voyez des rêves que tout le monde a récurrents, qui reviennent?
Moi, je vois que des rêves que personne ne font.
Ouais. C'est mal conjugué, mais ça marche.
Il est bassiste.
Les réseaux sociaux, c'est mal conjugué aussi. Que 4 cordes. Hein. Je fais ce que je peux.
Alors, non, pas spécialement, mais non, pas spécialement.
Tu vois, je vous pose la question, mais parce
à part
que...
des trucs sur le caca et les pipis, je vois pas.
Non, mais quand on parle de rêves récurrents, souvent on peut les coller sur des espèces de cauchemars. C'est des trucs qui vont revenir au milieu de ton rêve, qui est plutôt sympa. Par exemple, le fait de se faire ensevelir, le fait de perdre ses dents,
de tomber,
ou de ne plus avoir ses jambes qui fonctionnent.
Ouais, ouais.
Ce sont des trucs qui reviennent.
Alors, on n'était pas vraiment là-dessus, mais ça, c'est des rêves récurrents que beaucoup de gens font, mais qui signifient des choses profondes, effectivement. Ouais. Perdre ses dents, avoir mal aux orteils, perdre ses doigts, ce genre de trucs, oui.
Oui, qui ont des significations, mais vous pourriez du coup en faire, j'allais dire, expliquer. C'était pas ça votre...
On y reviendra peut-être par ce biais-là sur le rêve, parce que là, donc Soma est basé sur ça et la somatique. Et ensuite, on va partir sur autre chose. On va recommencer à composer d'ici très peu de temps et on partira sur un autre thème qui sera historique. Et après, peut-être qu'on reviendra au rêve, pourquoi pas. Vu que le Bakou reste ce compagnon qui nous montre la voie pendant nos rêves, quoi.
C'était annexe, hein. Je vous impose rien. Hein.
Non, mais ça donne des idées.
Ah, putain, je vais influer dans le. Je veux un crédit.
Ah non, ce que j'allais dire, il n'y aura pas de crédit ni de droit d'auteur.
On est de gauche.
Enregistré en plus.
Vous êtes de gauche?
Je sais pas, c'est quoi? Ben là, est-ce que je suis à ta gauche? Oui. Ah oui.
Non, mais comment vous vous engagez du coup, vous, dans. Est-ce qu'il y a, au-delà du rêve et tout ça, est-ce que du coup vous avez une forme d'engagement et comment ça passe?
Alors ouais. Déjà.
Notre engagement, il sera sur ce qu'on propose au niveau du merch, par exemple, où on fera que des petits prix et des choses comme ça. Mais sinon, comment faire? On va pas faire de politique dans notre musique. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens.
Après, pourquoi? Je pense que c'est...
parce qu'on fait pas du punk, par exemple. On fait du post-metal et j'ai pas envie de.
Ouais, mais on fait du hardcore.
Ouais, ouais, mais c'est parce que je sais pas. C'est.
On préfère le côté psychologique que le côté politique quand on fait de la musique.
Après, c'est peut-être pas un engagement, tu vois, dans les paroles ou dans ce qu'on dit dans nos paroles ou qu'on veut diffuser dans notre graphisme, mais je pense que déjà, venir tous les lundis répéter dans un local pour créer un spectacle et venir le jouer, prendre sa voiture, c'est une certaine forme d'engagement, tu vois. Et diffuser ta musique et aujourd'hui la diffuser sur les réseaux, entre guillemets, la vendre, parce qu'on la vend pas forcément, le but c'est pas ça, c'est de jouer. Ce que fait Yo sur les réseaux, tout ça, c'est un vrai engagement aujourd'hui. Enfin, vu la masse qu'il y a, vu comment est la société, etc. Tu vois.
Est-ce que vous triez dans vos réseaux? Est-ce que vous. Faites attention là où vous jouez.
Déjà vu notre style, les gens trient là où on joue. Ouais. Sans nous demander, tu vois ce que je veux dire. Quand tu fais du poste, tu vas pas aller dans des congrès ou des salles même qui programment de la musique, dire attends, plus variété quoi. Donc forcément, dans le style qu'on fait et dans le jeu qu'on adopte, tu vois, on a un jeu sur scène, en fosse, etc.
C'est
pour ça que je te dis, on est engagé en tant que tel, on a choisi ce style-là, déjà on se ferme des portes ou on en ouvre d'autres quoi.
Et puis il y a plein de choses, si on voit par exemple juste la fiche qui est là, tu vois, les règles de on fait ou on fait pas, typiquement ça fait vraiment plaisir de voir ça, enfin tu vois on est que des bonhommes dans le groupe, mais tous quand même avec cette sensibilité-là, on est tous papa aussi, enfin pas tous mais beaucoup, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur et quand c'est présent là où on va... ça fait plaisir de voir ça.
En tout
ça.
Cas, le poste est né de la scène hardcore et on a ces valeurs-là. Mais ça se reflète pas forcément dans la musique, tu vois.
Ça nous est déjà arrivé que l'organisation nous propose d'ouvrir avec un groupe et de refuser une date parce que c'était un groupe qui n'était pas forcément dans nos valeurs. Ça nous est déjà arrivé, effectivement.
Alors, tu l'as dit, vous jouez dans la fosse. Et ça, c'est intéressant.
Alors, c'est un concept depuis
sauf toi.
Pourquoi, sauf moi?
Bah, la batterie est dans la fosse.
Ouais, regarde.
Ah ok.
Voilà, du coup, le but de Bakou à la base c'était de jouer dans la fosse. Le but de Bakou, on disait simplement quand on était comme ça en interview, on disait on est des fossoyeurs, tu vois. Vraiment, on dégage les sentiments des gens, on les extériorise, quoi. Et le concept de Bakou, c'était de sortir un peu de ce credo où les gens viennent voir des concerts avec des gens qui sont surélevés par rapport à toi. Ça dure 45 minutes, une heure, tu rentres chez toi et il ne s'est rien passé, tu n'as pas connecté avec ces gens-là. Comme si tu regardais un DVD sur ta télé, tu vois. Et on s'est dit comment on peut aussi, notre musique, la diffuser et inclure le public dans ça. Et la meilleure solution qu'on a trouvée, et ça nous a mis du temps, je pense qu'on a mis un an et demi, hein, à trouver la bonne formule dans le positionnement des amplis, de nous, comment on accueille le public, comment on bouge. Et du coup, on a inventé une formule en fosse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une formule sur scène, puisque certains lieux ne peuvent pas accueillir en fosse. Mais en tout cas, on a une vraie formule en fosse qui est assez spéciale.
Qu'est-ce que ça fait de jouer en fosse ?
Ça fait toucher l'épaule du voisin.
Ouais. Ah, on vous tripote, non ? Tout le temps, non ?
Ça fait nettoyer les pédalboards.
Non, c'est réellement plaisant, surtout quand on arrive à faire rentrer les gens au milieu de nous. Là, c'est vraiment le but, c'est qu'ils rentrent dans le cercle et on fait une espèce de communion. Et ils se mettent à bouger comme nous, ça peut être assez magique.
Il n'y a pas trop de contacts, de trucs relous. En fait, le public respecte vachement ça.
Oui, vraiment. Je pense que dans le post-metal, on est dans le respect. Hein. Dans le post-metal, tout le monde se respecte et il n'y a pas d'attouchement ou de trucs intrusifs. Il n'y a jamais personne qui m'a piqué mon micro pour gueuler dedans. Voilà, jamais.
Après, ça peut bouger un peu, bousculer un peu. Après, ça arrive. Tu vois, moi, ça m'est arrivé au Bridge to Hell, un mec me parlait, quoi. Je jouais, puis en même temps, il me disait « Putain, tu cherches pas un groupe ?» Je suis en train de jouer là, tu vois.
Bon, ici ça arrivera peut-être ce soir parce qu'il n'y a pas qu'un public de métalleux, il y a aussi un gros public plutôt punk. Et peut-être que ce soir il y a des gens qui vont vous piquer le micro pour dire mort à Jean-Marie Le Pen, comme ça nous est déjà arrivé.
Voilà, et après nous ce qu'on cherchait c'est vraiment cette communion et cet échange ensemble pendant une heure où on connecte la musique ensemble et selon comment se positionnent les personnes. Selon comment ils réagissent, forcément le show il bouge parce qu'ils passent devant des amplis qui font que le son n'est pas diffusé pareil, tu vois. Et tout ça fait que chaque show est différent, chaque concert est différent parce qu'on est interagi avec notre public. Et c'est pareil sur scène, on a une mise en scène qui est un peu différente. On est éclairé un peu par répercussion, on travaille sur l'ombre et pas forcément la présence, tu vois. On prend le contre-pied de ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu de la musique, quoi.
Et du coup, quand vous vous mettez en fosse, là, parce que tu as commencé à parler de ça, il y a l'emplacement des amplis, vous avez réfléchi à tout ça. C'était d'abord pour vous entendre, j'imagine, vous tous.
Oui.
Est-ce que ça produit un bon son si on n'est pas dans le cercle, justement ? Tu vois, pour le public, comment...
Bon, là, ce soir, on va voir, parce que c'est la première fois qu'on fait en fosse, on est repiqué bizarrement. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Moi, j'ai de l'espoir... Ça rejoint ce que dit David, les gens ils choisiront l'endroit où ils sont bien, où ils entendront un peu plus Matt que moi, ou voilà, l'endroit qui leur convient le mieux, ils pourront le choisir en fait, ça c'est un luxe.
C'est vrai que ça c'est fort, ouais. Le but, c'est... si t'as envie d'être collé au batteur,
tu peux. Le but c'est de le vivre, tu vois, le concert, après c'est sûr à toi d'être acteur, et d'aller où tu veux aller, et d'entendre ce que tu veux entendre, et puis même de bouger, entre les morceaux, de te dire je suis plus proche de lui, je vais bouger là, mais c'est sûr que la masse sonore qu'on crée, elle va englober tout ça.
Oui, puis on a vu des fois des gens qui ferment les yeux, qui sont vraiment dans le cercle, et nous on bouge aussi, quoi. Et d'un coup on se retrouve à côté de la personne, et genre t'es à l'opposé de ton ampli, enfin ça fait un truc micmac ou... Ouais, le rêve, toi justement, est-ce que le Zikos il est devant son ampli, mais peut-être pas.
Bah, moi je me suis remis du coup ce que vous avez sorti dernièrement sur Bandcamp pour préparer l'interview que j'ai fait des collègues du LMF la semaine dernière. Et je me suis surpris à fermer les yeux plusieurs fois. J'étais au casque à réécouter, je me suis surpris à fermer les yeux. Ouais. Et donc voilà, c'était pas une question, mais j'avais vraiment hâte de savoir si ce soir... j'allais être en capacité de fermer les yeux au milieu là et de voir ce que ça allait faire. Donc
tu nous diras
après. Voilà, j'espère qu'on pourra en recoser, mais vraiment je me suis posé et j'écoute rarement la musique en me posant et en fermant les yeux.
L'album Soma est assez réussi dans ce sens-là. C'est, je pense que il y a plein de choses qu'on perçoit pas sur des enceintes qu'on percevra beaucoup plus au casque, notamment au niveau des. Il y a beaucoup de synthé derrière en fait que j'ai pas du tout mis en avant qu'on n'a pas décidé de mettre en avant, et au casque on entend tout ça et ça peut effectivement porter à l'introspection totale et on oublie que le morceau il fait 12 minutes.
Et voilà, je voulais parler de ça. Vous avez des morceaux très longs, ouais, qui n'ont pas forcément de titre d'ailleurs, et comme tu le disais aussi au départ, vous êtes, on passe plutôt par des mouvements, des moments.
Tout à fait.
C'est composé plus comme de la musique, soit hyper cinématographique, enfin aérienne, ou classique d'une certaine manière.
Totalement.
Tu peux nous parler un peu de cette manière de composer, voilà, post-metal, mais en fait.
Bah, tout part d'un riff, et le riff va amener une multitude de déclinaisons qu'on va choisir d'intégrer ou pas. L'apport des machines est un plus, clairement. Donc on peut développer effectivement de très longs mouvements, on peut rester 5 minutes sur 3 notes.
Vous hypnotiser vous-même.
Ouais, exactement. Et notre but, et ça rejoint la fosse, c'est la transe. Voilà, rentrer en transe. Et je pense qu'on y arrive bien.
Ça prend plus de temps des fois à poser une ambiance, tu vois. On parlait des paroles la dernière fois, du discours qu'on tient, où des fois avec une simple phrase tu peux résumer un discours. Nous on est plutôt dans l'optique de poser une ambiance et la tirer au maximum et la décliner. Et ça prend du temps. Tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un, si on parle en métrique 8 mesures, c'est-à-dire 20 secondes, voilà l'ambiance qu'on veut, et on passe à une autre ambiance. Non, il y a le ressenti, il y a la digestion de l'ambiance, l'acceptation en tant que toi, et puis après tu passes sur une autre ambiance et tu l'amènes. Et la transition que tu fais entre les deux mouvements et les deux ambiances, il faut aussi la travailler, tu peux pas brusquer la chose. Même si on s'amuse des fois à brusquer dans certains morceaux. Oui. Mais voilà, du coup on développe vraiment des ambiances et vraiment des mouvements musicaux. Après, la question du titre dont tu parlais, qui est le même sur chaque morceau, c'est qu'on est des gros flemmards.
Mais après, moi, j'aime assez. On met la combien ? La 3. Voilà, c'est cool, ça, j'aime ça, quoi. C'est facile, on s'en rappelle.
Ouais.
On n'écorche rien, on sait tous dire 1, 2, 3.
Carrément, facile.
C'est quoi vos prochains projets, du coup, là ? Vous disiez que vous alliez travailler un nouvel album.
Ouais. Alors, ça nous titille depuis un moment, puisque là, on a sorti. En fait, Soma, on le joue depuis 3 ans.
Voilà. Oui.
Ça, hein. Sauf qu'on l'a abouti vraiment sur une sortie d'album là, où on a travaillé avec différentes personnes, hein. On l'a créé à la Cordoue à Romain, on a travaillé avec François Fanelli sur le son et Arrache-toi un œil sur le graphisme. Et,
pardon, de jouer pendant 3 ans le même truc, est-ce que c'est chiant ?
Oui.
Non.
Oui.
Ça dépend.
Bon bah voilà,
ne se prononce pas.
Ça dépend ce que t'en fais, ça dépend les formules, fausse scène, ça dépend du lieu, ça dépend de plein de choses, les gens que tu rencontres. C'est vrai que là, 3 ans, je pense que c'est un bon cycle, ça commence à nous titiller. Ce qu'il y a, c'est que l'album, ce que je voulais dire, c'est qu'on a sorti une démo et l'album est sorti qu'en mars, donc entre guillemets, il est tout frais, les gens qui l'ont écouté veulent l'entendre, tu vois, donc tu peux pas dire au bout de 4 mois, ben les gars, on change tout.
Ah oui, vous le jouez depuis 3 ans, mais,
voilà.
Mais
il est sorti là.
Oui, ouais, il est disponible depuis le mois de mars, donc il faut qu'on le défende un peu.
Ouais, il va falloir le rejouer 3 ans.
Encore, encore et encore.
Non mais l'idée c'est justement de passer le... Ça s'aboutit sans le connaître, sans le maîtrise quelque part, même si on peut toujours être meilleur, hein, évidemment. Mais c'est surtout prendre du temps pour créer la suite, parce que quelque part on a pris du temps. Autant les morceaux sont longs, autant pour aller chercher les ambiances, trouver les riffs ça peut aller très vite, mais vraiment le digérer, vraiment le donner vie avec justement cette subtilité qu'il peut y avoir d'émotion, voilà, ça peut prendre du temps. Et donc faire tout ce travail un petit peu en souterrain, continuer à défendre Soma et arriver sans cassure si possible avec un nouvel album aussi abouti, voire mieux que ce qu'on a déjà fait là, ça serait super.
Mais c'est vrai, on est là, on s'est dit septembre-octobre, on attaque sur autre chose, un autre thème. Dan il parlait d'un fait historique, c'est ça, c'est à dire que là on était sur la somatique, le Bakou, le rêve, la perception des choses, tu vois, l'imaginaire, et là on va vraiment changer de thème voilà, c'est une volonté de composer.
On peut l'avoir en scoop.
Ouais, on peut le dire, hein. Je pense qu'il n'y a pas de... En fait, on a été assez frappé sur une petite anecdote, c'est venu comme ça. J'avais lu la BD Les filles de Salem.
Ah oui.
Qui est très belle BD, tu vois, sur un discours assez hardcore d'un fait historique avec des couleurs très chatoyantes. C'est ça qui m'avait assez giflé. Et comment cette personne, ce BDiste là, s'était réapproprié le fait historique en ajoutant des personnages de fiction, mais tout en gardant un fond de vérité. Et ça nous a assez frappé, on se disait on aimerait bien réinterpréter Salem, tu vois, sur un côté post, avec un thème sur voilà, la pendaison, le feu, aussi ce côté de, tu vois, de sans trop être dedans, mais tu vois, de la foule, comment l'image que tu peux avoir par rapport, tu vois, aux hommes, à la foule, comment tu peux être décrié, comment tu peux être accusé.
L'hystérie sans... collective.
Voilà.
Bien sûr, ouais.
Donc ouais, c'est le thème.
Vous rencontrez l'auteur ou vous partez de votre propre...
Alors c'est en cours, moi j'étais rentré en contact, mais il y a déjà un an avec, je crois que c'était Glénat, je me souviens plus, c'était un moment.
Luna qui dit.
Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, vous avez donné son contact. Pour l'instant.
Comment il s'appelle?
Je l'ai plus là. Thomas. Thomas Gilbert, non, c'est pas ça, pardon, peut-être je me trompe, mais il y a Thomas.
Faudrait qu'on regarde sur internet, tiens.
Et voilà, et du coup, en tout cas, il y aura un travail avec lui. Ouais. Il y aura une prise de contact et il y aura d'autres personnes autour de la table, comme on dit. Il n'y aura pas que lui. Il y aura d'autres musiciens, il y aura d'autres acteurs.
Mmh. Et ouais, vous parliez de feat, donc d'inviter des gens, c'est ça?
Thomas Gilbert, c'est bien ça, pardon.
Thomas Gilbert, coupe, ouais. Ouais.
Thomas Gilbert. Merci.
Ouais. Du coup, d'inviter d'autres gens, tu veux dire, sur la création?
Ouais, peut-être d'autres créations qui seraient d'autres personnages dans Salem, parce que tu vois, tu as le prêtre, tu as les filles, tu as plein d'acteurs dans ce fait historique, tu as plein de choses qui sont vraies. On va quand même se baser sur la BD et ça serait intéressant qu'il y ait pas des rôles, on va pas retranscrire une histoire sur scène, mais tu vois que des invités soient là pour retranscrire des ambiances et puis des personnalités. Ouais.
On est en train d'imaginer tout ça et d'ouvrir le champ des possibles et puis ensuite on verra ce qui est réalisable. Ouais. Voilà.
Et en live, trop d'invités, c'est compliqué. Là, vous êtes déjà un groupe de 4. Est-ce qu'on peut parler de ça, se vendre, se déplacer? Comment ça fonctionne pour vous?
Alors,
est-ce que vous êtes cher?
Bah, ça dépend, c'est quoi ton compte en banque? Non. En ça fait, pour te dire, on s'est simplifié la tâche parce qu'on a commencé à 5. Et du coup, on est passé à 4 depuis un an, puisqu'on avait 3 guitares à la base qui avaient ce côté massif de post-metal. Thomas qui était un groupe arrêté pour raisons familiales, etc.
Puis on lui fait un bisou, enfin, on n'est pas du tout fâché ou quoi que ce
soit.
Non, c'est lui qui est parti. Et du coup, je trouve que 4 c'est un bon format. Aujourd'hui, dans la diffusion, on va pas faire que des solos ou des duos, tu vois. Mais après, ça dépendra. Ça dépendra. Tu vois, on a la chance d'avoir Dan qui gère beaucoup des machines. Les batteurs, maintenant, il y a aussi des facilités avec des sampleurs. Tu peux sampler des choses. Et puis, selon où tu te situes géographiquement, d'inviter les personnes qui t'ont accompagné sur le projet physiquement sur scène. Tu vois, ça se fait régulièrement. Je pense que c'est. T'as raison sur la vente, c'est de plus en plus compliqué. Mais je pense que quand t'as des beaux projets, les gens font l'effort de financer un groupe et de te proposer sur scène quelque chose de qualité avec les gens qui sont payés. Quoi.
Vous vivez de la musique?
Absolument pas. Moi, on travaille tous.
Non, du tout, on travaille tous à côté.
Alors, qu'est-ce que vous faites?
On est tous un peu dans le milieu culture, événementiel, mais on travaille pas. Ouais, on n'est pas intermittent, quoi.
C'est quoi ton boulot?
Moi, je suis directeur événementiel dans une mairie, pas loin d'ici.
Alors, moi, je suis agent technique dans un musée.
Je suis barman.
Et moi, je suis coordinateur vie associative.
Ouais, donc vous êtes quand même dans des milieux engagés, quand même. Sauf le bar, peut-être.
On côtoie, on côtoie le beau au quotidien.
Ouais, ouais. Je suis barman dans une salle de concert.
Ah, laquelle?
Le Vacar Mixki.
Ok. Voilà, un peu de pub au passage. Cette question de vivre ou pas de sa musique, de se vendre, vendre vos albums sur Bandcamp, vous avez mis des prix, vous gérez ce truc-là. Est-ce que vous avez une envie de monter en puissance?
Après, on le gère nous. Bandcamp, l'avantage, c'est que même s'il y a des taxes, c'est nous qui fixons nos prix, nos photos, tu vois, etc. On passe pas par des réseaux autres, quoi. Voilà, même si on est sur les réseaux Spot, etc. Enfin, Deezer, naninana. Après, le but, c'est que la musique soit diffusée. Tu vois, c'est toujours le même débat que tout le monde a sur Rage Against the Machine. Est-ce que quand Rage s'est vendu à Sony sur le troisième album, ils se sont vendus? Moi, je dirais non, puisque plein de gens les ont découverts et leur discours a été diffusé auprès du plus grand nombre, tu vois. Et après, libre à chacun de se faire une pensée et d'avoir une activité sur ça. Voilà, après, je pense qu'aujourd'hui, la vente, il y a plein de lieux qu'on connaît pas. Il y a plein de lieux où c'est sympa d'y jouer. Enfin, tu vois, Luzeran, c'est super. Il y a plein de gens qui ont des salles. On a joué au Cafarnaum, là, à Saint-Étienne-de-Remiremont, il y a quelques mois. C'était un super accueil, une super salle. Et je pense qu'il faut faire les deux. Il faut des lieux conventionnés comme la Cordo, tu vois, Roman, qui ont des financements publics et qui programment et qui des groupes comme nous. Coup, voilà. Où on a créé l'album, on a été en résidence. Et puis, il faut des lieux plus alternatifs. Il faut tout, je pense. Voilà,
après, Mistral, tu vois, qui nous a permis aussi de créer le groupe Bakou, quoi, aussi.
On leur fait un bisou, Mistral. On les aime bien. Donc voilà, vous êtes toujours en autoprod. Mais non, la question c'était, est-ce que vous, quelque part, il y a une envie comme ça d'aller finalement peut-être vers l'intermittence ou vivre de la musique?
Alors moi, je me suis toujours refusé à ça personnellement, mais c'est moi personnellement. Je n'ai jamais voulu dépendre de mon art. Voilà, donc moi, faire des compromis, c'est pas dans ma nature. Donc je préfère être complètement indépendant au risque de rater quelque chose, parce que je rate évidemment quelque chose. Hein. Mais je préfère garder cette indépendance, et encore.
Dans le fond, être plus visible, oui, intermittent, non, pas forcément. Tu vois.
Ouais.
Après, il y a plein de groupes qu'on connaît qui tournent énormément, où les mecs sont pas intermittents. On va parler d'un autre style, Didier Vampas, qui était à la SNCF et qui joue tous les week-ends, mais qui du coup, non, pas intermittent. C'est un moment, aujourd'hui je sais pas comment il est.
Non, mais la question était pas tellement sur le statut d'intermittent ou de devenir intermittent, mais finalement d'arrêter de bosser dans ce que vous bossez parce que vous faites suffisamment de dates et voilà, il pourrait y avoir une envie comme ça de...
Oui, mais combien de temps ça dure?
Ok.
Après le monde de la culture, enfin tu vois moi j'ai été 17 ans chargé de diffusion, booker. Et enfin je vois très bien ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un moment où ça peut bien bien tourner, tu peux faire tes cachets, tu peux être intermittent, il n'y a pas de problème, mais je connais énormément de discos aujourd'hui qui sont obligés d'aller vider des camions pour épousser des caisses pour finir à boucler leur statut quoi. Et après t'es, voilà, c'est juste un mode de rémunération, je pense que tu peux faire de la musique sans forcément tout mettre dedans.
Pour l'instant ça peut nous permettre de créer, d'avoir de l'imagerie, de créer de la scéno, de financer la musique qu'on fait, parce que ça a quand même un coût de jouer un instrument aussi, et c'est déjà bien.
C'est sûr que t'as peut-être moins de pression aussi, tu vois. Moi je dis tout le temps, quand on sort un premier album, personne nous attend, on prend le temps. Tu vois, t'as pas la pression quand t'es pro, entre guillemets, d'avoir un label derrière qui te dit, bon les gars, dans 6 mois il faut sortir un truc parce que la presse vous attend, il y a des concerts, il y a des ci, il y a des ça. Et nous le but c'est aussi de prendre le temps dans la création, faire ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on est à l'autoproduction. Après forcément il y a la question des moyens. Quand tu finances un album comme ça, comme on a sorti en vinyle, CD, sérigraphie, tu sors un beau billet, tu vois. Donc c'est des finances privées, c'est des dates que tu fais, c'est voilà. Et tu te dis, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir une structure derrière soi. Mais entre le pro qui te pousse derrière en te disant faut être visible, visible, et puis t'as des structures indépendantes qui sont très bien aujourd'hui même dans le métal et qui accompagnent les groupes quoi.
Cette question de l'indépendance en tout cas, enfin voilà, c'est super intéressant de savoir aussi, mais du coup comment est-ce que vous financez quelque part?
Des concerts, des concerts, des concerts.
L'argent de la drogue.
La drogue.
Et tes figurations dans des films hollywoodiens.
Les doublures d'Antonio Banderas. Voilà. Non, en fait, commencer, c'est les concerts. Aujourd'hui, c'est ce qui. Parce qu'on va pas parler de streaming sur notre niveau, etc. C'est pas ce qui ramène, tu vois. C'est les gros groupes qui ont des gros financements de streaming.
Ouais, ouais, ça vous rapporte le streaming en vrai?
Bah pas tant, enfin, c'est plus de la visibilité quoi.
Ouais, on a eu 8,62€, un truc comme ça, ouais.
Ouais, voilà. On peut se payer une petite bière.
Pas chacun en tout. Hein.
Ah, c'est honteux.
C'est assez ridicule, ouais.
Voilà, mais après, non, les concerts. Le financement aujourd'hui de la musique, mais même pour tous les artistes, c'est les concerts.
Participer au merch, les concerts, oui.
Et après, nous, des fois, nos finances privées.
Mmh. Nos finances privées
on
investit, aussi.
Hein. Puis on retrouve avec le merch. Ouais, l'autoproduction, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu, bah oui, toi, oui. Tu nous as déjà vu en concert?
Non, je vous ai pas vu.
Ok. Bon, ben, ça va être la première.
Exactement. Non mais j'ai hâte, j'aime bien les ambiances de Fosse. Il y a Fosse d'ailleurs, vous connaissez Fosse?
Oui, tout à fait.
Okay, voilà. Donc si on vous pose pas de questions, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Est-ce que ça fait racoleur d'annoncer les deux prochaines dates là?
Ah mais
pas du
non,
tout.
Pas
le
du
15,
tout.
Le 15 novembre on joue à Vienne au Manège, c'est ça hein? Ouais. Mathis est mieux que moi. Et le 6 décembre on joue au spot à Nîmes. Nîmes. Voilà, donc on est un peu en dehors de la région, mais après on refera quelques dates dans le coin. On se limite un peu à une date par mois nous. Mais voilà.
Ça devrait être des belles dates, on est avec des jolis groupes.
On ne joue pas, mais on organise une soirée le 31 octobre aussi, au Vacarme Exquis, où on fait venir les copains de Demande à la Poussière, avec qui on est parti en tournée en juin. À The New Revolt et Abîme, qui est le projet solo de Daniel.
Du chanteur du groupe. En fait, on a la tradition à Halloween de faire une date au Vex, où on a carte blanche avec Bakou, depuis quelques années, c'est la troisième année là. Et voilà, là on s'est dit qu'on laissait la main un peu à un projet solo du chanteur et d'autres collègues, parce qu'on avait joué deux fois sur scène et en fosse. Mais voilà, on pourra se retrouver là-bas. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a à dire à plus? Souvenez-nous sur Bandcamp et lisez Les Filles de Salem.
Et ouais, des clips, des trucs qui sortent aussi, non?
On a un clip déjà sur YouTube.
Ouais.
Je monopolise la parole, les gars. Et qui est Opposite 2.
C'est chiant. Hein.
Ah, t'as vu, hein? Qui a été tourné à Chatte, dans une ancienne magnanerie. Si vous regardez le clip, vous verrez l'ambiance. C'était la plus grande magnanerie de la région, parce que c'était la magnanerie qui faisait à la fois de la soie et qui logeait les ouvrières. Sacrée ambiance. Vous pouvez la visiter gratuitement pour les journées du patrimoine. Donc notre premier clip a été tourné là-bas. Sur Soma, on a fait plutôt des concepts d'images animées. Et bien sûr, sur Salem, il y aura des clips, ouais, bien sûr.
Là, les finances ne nous permettent pas de ressortir des clips, malheureusement.
Bah force à vous, les gars.
Ouais, merci. Si j'avais merci. Une question, est-ce que vous nous playlistez à Radio RDOA?
Eh ben, sans doute pas.
Ok, il serait temps.
Donne-moi ton CD.
Et l'année prochaine, on a 8,50€.
Cool.
Vous chantez en français ou en anglais?
Anglais, Salem sera en français.
Voilà, parce que sur le français, vous êtes sûr de toucher les radios associatives qui passent de la chanson française. C'est réellement, comptabilisé par la SACEM, du coup.
Eh oui.
Voilà. Quand vous êtes à chanter en anglais, bah non, ça marche pas.
Moi, on va vivre en prochain alors.
Voilà. Mais avec plaisir, donnez-moi et on
aucun problème.
Rentre. On vous rentre.
En tout cas, c'était un plaisir parce que Mathieu a été animateur à Radio BLV.
Oh, moi, je suis animateur Radio Méga.
On les salue. Qu'est-ce que tu fais, Méga?
Il a pas dit bonjour à l'émission rap.
Ok. Okay. Tu fais une émission de rap.
Ouais.
Très bien.
Incroyable.
Bah, nous, on a fait
on va aller
l'émission punk pendant
on va aller l'écouter. Si c'est bien, autant on la reprend. On se fait pas mal d'échanges avec,
avec
Méga.
Avec plaisir.
Et avec BLV aussi. Qu'est-ce que tu faisais à BLV?
C'est une émission qui s'appelait Les Voisins d'à côté.
Oui.
Comment découvrir de la musique à cause de ses voisins.
Qui était diffusé sur Méga aussi.
Ouais, donc on entendait de loin. C'est toujours c'est le son que t'entends mais de l'autre côté de la rue quoi.
C'est ça.
Fais chier.
C'est tout un concept.
Excellent. Ben voilà, salut Méga, salut BLV. Salut à vous Bakou.
Ouais,
merci bon concert pour ce
beaucoup
soir.
Beaucoup pour ce moment. La rencontre correspond à ce que j'ai écouté. J'ai hâte au live. Voilà, écoutez Bakou.
Avec plaisir de vous voir dans le cercle tout à l'heure.
Merci pour tout.
Bonjour à tous les auditeurs de RDIWA.